Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Je pense que le confinement va être national. C'est pas le couvre-feu qui va suffire. Mais s'il y a confinement, il faut qu'il soit accompagné par une politique de dépistage et une politique d'isolement.
Épidémiologistes, élus, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer un reconfinement. Face à des chiffres qui explosent, 357 malades entrés en réanimation aujourd'hui, le double d'hier. Nous irons dans un hôpital où la situation est d'ores et déjà pire qu'au printemps. En raison de ce contexte sanitaire, Emmanuel Macron bouscule son agenda. Deux nouveaux conseils de défense au programme, un énième tour de vis semble inexorable. Quelles sont les pistes étudiées par l'exécutif? Nos informations dans ce journal. L'escalade entre Paris et Ankara, après avoir remis en question la santé mentale du président français, Erdogan lance maintenant un appel au boycott des produits tricolores. Dans ce journal également, l'impossible interrogatoire du principal accusé au procès des attentats de janvier 2015 et puis la réforme de l'assurance chômage dont les syndicats ne veulent pas entendre parler. Elle est une nouvelle fois reportée mais pas abandonnée. Le temps de demain, Mossad avec beaucoup de pluie sur l'ouest, pas soleil pour le sud et l'est du pays, nous dira Anissa Haddadi. La bourse de Paris a clôturé en forte baisse, moins 1,90% à 4 816 points. Les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Est-ce que Deliveroo profite du couvre-feu? C'est la question que posera Emmanuel Duteil à Melvina Sarfati El-Grabli, la directrice générale de Deliveroo en France. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La deuxième vague serait-elle plus forte que la première? La France a-t-elle perdu le contrôle de l'épidémie? Autant de questions nourries par la flambée des chiffres de ces derniers jours, car à l'évidence, Victor Dolande, on a franchi un cap.
Oui, plus de 52 000 cas de coronavirus enregistrés sur tout le territoire pour la seule journée d'hier. Et c'est la première fois qu'on passe cette barre symbolique des 50 000 contaminations en 24 heures. Un chiffre qui, selon le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy ce matin, est sous-évalué. On serait plutôt aux alentours de 100 000 cas quotidiens, selon lui. Et ces contaminations, vous le savez, ont une répercussion sur notre système de santé. En Île-de-France, 67% des lits de réanimation sont déjà occupés par des patients Covid. À ce rythme-là, on sera au-dessus des 90% dès le week-end prochain. L'épidémie est hors de contrôle. Pour Jean Rottner, le président de la région Grand Est, il n'y a pas d'autre solution que le reconfinement.
On sent maintenant depuis quelques heures et quelques jours la situation se dégrader dans notre pays. Alors certes, des dispositions ont été prises, le couvre-feu, mais n'attendons pas les résultats de ce couvre-feu dans 10 jours ou 15 jours pour commencer à discuter à un éventuel reconfinement.
Et il veut justement pousser le gouvernement à ouvrir des discussions sur le sujet, ne pas prendre des décisions à la dernière minute sans concertation pour qu'une fois enfin, les politiques et les scientifiques accordent leur violon dans cette épidémie.
Merci Victor Dolande du service Société d'Europe 1. On vient de l'entendre, de plus en plus de voix s'élèvent désormais en faveur d'un reconfinement, comme l'ont fait les Irlandais par exemple, tout en laissant leurs écoles ouvertes. S'achemine-t-on plutôt vers un avancement du couvre-feu? Il se murmure dans les ministères qu'il pourrait passer de 21h à 19h. Quelle option le gouvernement va-t-il choisir? En tout cas, les signaux se multiplient ces dernières heures. Adrien Beck, le président, a largement bousculé son agenda pour se consacrer aux réponses à donner à cette crise sanitaire.
Oui, demain après-midi, Emmanuel Macron aurait dû se rendre au Creusot pour parler nucléaire. Eh bien, il n'en sera rien. Et c'est assez rare pour être souligné, déplacement annulé. Le président bouscule son agenda en raison de la situation sanitaire, dit-on à l'Élysée, car le chef de l'État a regardé les chiffres épidémiques du week-end et ils sont catastrophique, constate un de ses proches. Deux conseils de défense sont donc convoqués à l'Élysée. Le premier, demain matin, il s'agit de définir les scénarios possibles. Voici en gros la palette, avancer l'heure du couvre-feu, l'élargir au week-end, confiner localement. Autant de pistes qui seront évoquées demain après-midi avec les patrons de partis politiques reçus à Matignon, les associations d'élus aussi, les partenaires sociaux suivront demain soir. Il s'agit de concerter tout cela avant un nouveau conseil de défense mercredi matin pour arbitrer et donc arrêter les décisions. On avait prévu des clauses de revoyure à 15 jours. C'est dépassé, confie un collaborateur du Premier ministre, Jean Castex. Emmanuel Macron, désormais engagé dans une course de vitesse contre le virus pour éviter une redoutée catastrophe sanitaire.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. En attendant les décisions de l'exécutif, les chiffres de l'épidémie battent chaque jour de nouveaux records. Après les 52 000 cas positifs détectés hier, c'est aujourd'hui le nombre de personnes admises en réanimation qui bondit. 357 nouveaux cas graves ont été transférés en réa ces dernières 24 heures, soit 186 de plus que dimanche, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le mois d'avril, selon Santé publique France. Autre signe inquiétant, 8 malades du Covid en provenance de Saint-Étienne et de Lyon ont été transportés en avion médicalisé en Nouvelle-Aquitaine. Une opération similaire avait déjà eu lieu vendredi dernier. Et puis après l'Île-de-France, Lille, Lyon ou encore Grenoble, le plan blanc a été déclenché dans tous les hôpitaux du Grand Est. Concrètement, les opérations non urgentes sont déprogrammées et tous les soignants en congé ou en vacances sont rappelés. Bref, nos hôpitaux sont submergés par la deuxième vague, particulièrement les services de réanimation où l'on compte ce soir 2761 patients. Johanna Chabas s'est rendue aujourd'hui dans un hôpital privé de Marne-Chantraine en Seine-et-Marne où la direction s'est organisée pour pouvoir accueillir un maximum de malades.
Le seul moyen pour faire face à l'afflux des patients ici, réserver un étage entier aux malades du Covid avec 42 lits. Abdelaziz Benkeli, le chef du service de réanimation, est alarmiste. Le nombre de malades augmente de façon exponentielle.
L'explosion, on la voit. Il y a un mois, on avait pratiquement un malade Covid. Et là, à l'heure où je vous parle, il y en a 35. À 17h, à 18h, notre service est déjà plein, même si on a libéré 4 ou 5 places dans la journée.
Et s'il y a autant de patients, c'est parce que l'hôpital récupère des malades d'autres établissements d'Île-de-France. Proche de la saturation, 70% des patients ici viennent d'un autre hôpital. Et Olivier Pellix, le directeur, craint que la situation s'aggrave dans les prochaines semaines. Il a surtout peur pour son personnel.
Lors de la première vague, nous étions une des régions les plus impactées et peu de régions étaient autant impactées que nous. Ici, nous avons reçu de l'aide de personnes venant du nord de la France, des Hauts-de-France, de personnes venant d'Aquitaine, des personnes venant de Savoie. Et on a été aidés. On sait qu'on ne pourra plus l'être, puisque eux-mêmes connaissent des difficultés et eux-mêmes ont un afflux massif de patients.
La solution à court terme est de déprogrammer. 40% des opérations de médecine ont été reportées ici. Et Olivier Pellix se dit prêt à réserver un deuxième étage de son établissement aux malades du Covid si la situation devait s'aggraver.
Reportage signé Johanna Chabas pour Europe 1. Une bonne nouvelle, il y en a. Sur le front de la recherche contre le Covid, le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca annonce que son vaccin en cours de mise au point entraîne une réponse immunitaire encourageante de la part des jeunes adultes et des personnes âgées. Ce vaccin candidat est actuellement au stade des essais cliniques dits de phase 3, soit l'étape précédant son autorisation par les autorités.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
C'est une escalade sans précédent à laquelle on assiste depuis quelques jours entre la France et la Turquie. Recep Tayyip Erdogan multiplie les déclarations choc à l'encontre de son homologue français. En cause, la promesse d'Emmanuel Macron de continuer à défendre les caricatures du prophète Mahomet. À plusieurs reprises, le président turc a remis en question la santé mentale du chef d'État français. Mais un cap a été franchi aujourd'hui, Jihan Bergawi, puisqu'Erdogan appelle ni plus ni moins un boycott des produits tricolores.
Absolument, ces appels au boycott lancés dans plusieurs pays du Moyen-Orient circulent depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. Et cette fois, c'est donc Recep Tayyip Erdogan en personne qui s'empare du sujet. À Ankara, il lance un appel ferme et sans ambiguïté au peuple turc.
Je m'adresse à ma nation. Tout comme en France, certains disent « n'achetez pas de marque turque ». Je m'adresse ici et maintenant à ma nation. Surtout, ne prêtez pas attention aux marques françaises. Ne les achetez pas.
Et puis dans ce discours virulent, le président turc compare le traitement des musulmans en Europe à celui des juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Il accuse certains dirigeants européens de fascisme et de nazisme. Et il les appelle à dire stop à la campagne de haine qui est, selon lui, dirigée par Macron. Un appel resté sourd puisque les dirigeants européens condamnent les propos d'Erdogan. Pour la diplomatie allemande, il s'agit d'attaques diffamatoires et absolument pas acceptable. L'Italie et le Portugal viennent d'apporter à leur tour leur soutien au président français.
Précision signée Jihan Bergawi pour Europe 1. À l'Elysée, en tout cas, on ne compte pas laisser passer ces outrances. Selon nos informations, trois pistes sont sur la table pour répondre à Ankara. Sanctions économiques pour limiter l'importation des produits turcs, intensification de la présence militaire française en Méditerranée et contrôle accru des réseaux turcs en France. Toujours à ce sujet, Emmanuel Macron a reçu ce soir à l'Élysée les représentants du Conseil français du culte musulman. Et à sa sortie, son président, Mohamed Moussaoui, a appelé les fidèles à calmer le jeu et à défendre les intérêts de la France, un grand pays où les citoyens musulmans ne sont pas persécutés et pratiquent librement leur culte. Et puis Paul Pogba annonce qu'il va porter plainte contre les médias ayant véhiculé une rumeur, rumeur comme quoi le champion du monde souhaite se retirer de l'équipe de France pour protester contre les propos d'Emmanuel Macron sur l'islam. C'est absolument infondé à 100%, a écrit le milieu de terrain sur son compte Instagram. L'actualité judiciaire marquée aujourd'hui par l'audition de l'un des principaux accusés au procès des attentats de janvier 2015. Son nom, Ali Riza Polat. Il est le seul accusé présent renvoyé pour complicité d'actes terroristes. L'homme était un proche d'Amédi Coulibaly et apparaît à tous les stades de la préparation des attentats, mais il a continué à nier farouchement sa culpabilité, Gladys Laffitte.
Oui, Ali Riza Polat trépigne derrière la vitre de son box, s'énerve, hurle même, tape du poing. « Je ne comprends pas, je n'ai rien à voir avec le terrorisme. C'est dur à entendre, mais Coulibaly, c'était mon ami. Je ne vais pas lui donner des kalachnikovs pour qu'il se fasse tirer dessus. » Il est accusé notamment d'avoir fourni des armes aux terroristes, ce qu'il conteste. Ses explications sont pourtant très laborieuses. C'est en fait un dialogue de sourds entre l'accusé et le président qui peine à obtenir des réponses claires. Comme par exemple, lorsqu'on lui demande pourquoi il tente de rejoindre la Syrie le 17 janvier 2015. Il se fera d'ailleurs refouler à la frontière. À Damas, rétorque Ali Riza Polat, car il sait que Damas est en rupture diplomatique avec la France. Lui, qui ne cesse de se dépeindre comme un braqueur cupide, assure qu'il n'aurait pas tenu 30 minutes chez l'État islamique. Version confirmée par sa famille à la barre. Des Kurdes qui n'ont pas accepté sa conversion à l'islam. Son petit frère, beaucoup plus clair que son aîné, se fait son avocat. Vous dites que c'est le numéro 1 dans cette affaire. Moi, je vous dis qu'il n'était pas radicalisé, comme vous dites. Il était trafiquant de drogue, faisait des magouilles pour avoir de l'argent, mais n'a jamais vendu d'armes.
Gladys Laffitte, du service police-justice d'Europe 1. Le procès de Bernard Tapie dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008 est renvoyé au mois de mai 2021. Décision de la Cour d'appel de Paris en raison de l'état de santé de l'homme d'affaires qui, selon une expertise, pourrait s'améliorer d'ici là grâce à un nouveau traitement médical. Michel Fourniret et son ex-épouse Monique Olivier de retour depuis cet après-midi à Ville-sur-Lume dans les Ardennes. C'est là que le tueur en série est accusé d'avoir séquestré et tué Estelle Mouzin en 2003. Le duo a été emmené devant la maison où l'ADN partiel de la fillette a été retrouvé sur un matelas. La juge d'instruction en charge de l'enquête tente de raviver la mémoire de Michel Fourniret pour tenter de retrouver le cadavre d'Estelle Mouzin. Pour la seconde fois depuis le début de l'épidémie, les partenaires sociaux ont été réunis aujourd'hui à Matignon, essentiellement pour discuter des conséquences économiques de la crise. Le Premier ministre en a profité pour réaffirmer que le gouvernement n'entendait pas renoncer à la réforme de l'assurance chômage. Pas de renoncement donc, mais un nouveau report, Olivier Samin.
Oui, ce n'est donc pas le 1er janvier prochain qu'entreront en vigueur les nouvelles règles de l'assurance chômage qui durcissent les conditions requises pour être indemnisées et qui rendent moins favorable le calcul des allocations versées aux personnes qui alternent des périodes de chômage avec des contrats courts. Le gouvernement a fixé comme nouvel horizon le 1er avril 2021. 3 mois de délai supplémentaire qui, disent les syndicats, ne changent rien au problème. La CFE-CGC, par exemple, par la voix de son président François Omeril, considère que la seule réponse qui vaille, c'est l'abandon pur et simple de la réforme.
Même si elle est décalée au 1er avril, pour nous, c'est une réforme punitive qui est une réforme anti-chômeur et absolument pas anti-chômage, faite à une période d'embellie économique qui, évidemment, a définitivement disparu.
Se donner un peu plus de temps pour mieux en définir les paramètres, oui, mais abandonner cette réforme, pas question, a aussitôt répondu Jean Castex.
Le gouvernement n'entend pas renoncer à cette réforme majeure, pas plus qu'à toutes les autres réformes qui ont pour objectif de moderniser notre pays, de le rendre plus fort et plus juste.
Pas plus qu'à toutes les autres, l'allusion est claire. Derrière celle de l'assurance chômage, c'est la réforme des retraites qui devrait être engagée. Mais là aussi, le gouvernement va se heurter à un mur. Plus aucun syndicat ne réclame cette réforme et le patronat juge qu'elle n'est pas prioritaire.
Précision signée Olivier Samin pour Europe 1. Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie vont augmenter en moyenne de 1,6% au 1er novembre en raison de la hausse des cours sur les marchés. Cette hausse sera de 0,4% pour les clients qui utilisent le gaz uniquement pour la cuisson, de 0,9% pour la cuisson et l'eau chaude et de 1,7% pour les foyers qui se chauffent au gaz. La Côte d'Azur a subi cet été la plus grave crise de son histoire en termes de recettes touristiques Antarctique avec un manque à gagner de 600 millions d'euros selon le comité régional du tourisme. 6 millions de séjours ont été enregistrés en juillet et en août contre le double habituellement les années précédentes. Et puis le plan social chez Lufthansa revu à la hausse. Ce ne sont plus 22 000 mais désormais 30 000 emplois qui sont menacés, a prévenu la direction du premier groupe aérien européen. En cause, la deuxième vague qui déferle en Europe et qui pénalise fortement le trafic aérien. La météo, Anissa Haddadi, une nouvelle perturbation arrive demain.
Oui, et du coup, Julien, la journée sera placée sous le signe de la pluie demain, avec d'abord en début de journée du Cotentin aux Landes, de la pluie et du vent sur les côtes atlantiques. De la Normandie à l'Occitanie, le ciel alterne entre nuages éclaircis et quelques petites averses. Et puis sur le Massif central et les Alpes, il neige encore demain. À l'est, des Hauts-de-France jusqu'à la Provence, là le temps est plutôt sec et ensoleillé. Et puis c'est dans l'après-midi que la perturbation va avancer et va toucher les trois quarts du pays avec des pluies accompagnées sur toute la moitié nord de vent. Il n'y a finalement que sur l'Alsace, les Alpes, la Provence, Alpes-Côte d'Azur, le Languedoc et la Corse que le temps sera sec et ensoleillé demain. Partout ailleurs, c'est gris et pluvieux. Les températures, elles baissent, comptez 5 à 10 degrés demain matin. Dans l'après-midi, nous aurons 10 à 15 degrés sur l'ensemble de la France et 15 à 20 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 20 degrés au bord de la Méditerranée, 15 pour Paris.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Est-ce que Deliveroo profite du couvre-feu? C'est la question que posera Emmanuel Duteil à Melvina Sarfati El-Grabli, la directrice générale de Deliveroo en France. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, merci d'écouter le journal de la nuit.
Et maintenant, Top à Wall Street est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Les marchés sont en forte baisse ce soir. Wall Street plie sous le poids de la seconde vague du coronavirus.
Oui, c'est une baisse sévère pour le Dow Jones, moins 2,3%, 27 685 points. De son côté, le Nasdaq lâche 1,64%, 11 358 points. La hausse des cas de contamination inquiète en Europe et aux États-Unis et ça décourage les acheteurs déjà très prudents à quelques jours de l'élection présidentielle. Alors, le secteur aérien trinque une nouvelle fois. Les compagnies Delta Airlines et American Airlines plongent de plus de 6%. Et en fait, c'est du rouge pour toutes les plus grandes valeurs à New York. Le laboratoire AstraZeneca fait tout de même partie des exceptions. Les résultats de son vaccin anti-Covid sont positifs sur les personnes âgées. Très bonne nouvelle. Et le titre monte de 2%. Le pétrole n'est pas épargné par la déprime des marchés. Le baril perd 3,3%, 38,52 $ à New York.
Et la semaine démarre également en forte baisse à Paris. Le CAC 40 chute de près de 2%.
Moins 1,9% précisément pour le CAC 40. À nouveau très inquiet de cette crise. Il termine à 4816 points. Le compartiment technologique a particulièrement souffert. Capgemini et Worldline perdent plus de 5%. C'est la conséquence de l'avertissement de l'allemand SAP qui ne va pas tenir ses résultats cette année. Journée noire pour le spécialiste des logiciels professionnels qui chute de 20% à Francfort. Et puis le pétrole qui est donc en forte baisse plombe le secteur à Paris, à l'image de Total ou de Technip FMC. Technip chute de 7%.
Le titre Peugeot surnage ce soir dans ce marché, on va dire, déprimé.
Oui, une toute petite hausse de 0,4% pour Peugeot. D'après les agences de presse Reuters et Bloomberg, la Commission européenne va donner son feu vert au projet de fusion du constructeur français avec Fiat Chrysler. C'est le même scénario partout en Europe ce soir, du rouge vif. Londres perd 1%, Francfort plonge même de 3,7%, plombé donc par la chute de l'action SAP. Madrid perd 1,4%, Bruxelles moins 1,1%. Et à Paris, le CAC 40 recule de 1,9% à 4816 points.
Merci Claire, Claire Lemaître de Boursier.com et à demain. 22h et bientôt 21 minutes sur Europe 1, on passe à l'interview Echo.
Tout de suite, retrouvez l'invité Echo avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Melvina Sarfati El-Grabi. Bonsoir, monsieur Dutheil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de Deliveroo en France. Deliveroo, c'est l'une des principales plateformes qui permet de livrer des plats proposés par les restaurants à domicile. Alors, deux tiers des Français sont aujourd'hui contraints par un couvre-feu qui débute à 21h. De façon très simple, est-ce que vous voyez une hausse des livraisons dans les zones où vous êtes ?
Alors, c'est la question, on va dire, que tout le monde se pose. Il est vrai que à J plus une semaine, il est difficile de tirer des tendances claires. Il faut savoir qu'effectivement, cette semaine coïncide par ailleurs avec la première semaine des congés de la Toussaint, qui c'est les semaines de vacances, sont des semaines avec des profils de consommation assez différents.
Donc, il faudra attendre un petit peu pour voir si véritablement il y a des changements d'habitude qui s'ancrent dans la durée. Malgré tout, vous lancez après-demain, mercredi, la livraison 24 heures sur 24 à Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse. C'est donc bien que la demande est là et c'est une nouvelle demande pour faire ça.
Alors, il est vrai que ce service de livraison, on va dire 24 heures sur 24, correspond, on va dire, à un appétit de la part des consommateurs de pouvoir commander davantage. Cela coïncide dans le calendrier avec effectivement ce démarrage du couvre-feu. Mais j'ai envie de vous dire que s'il n'y avait pas eu couvre-feu, c'est certainement une initiative qu'on aurait poussée de toute façon, à la fois pour répondre à ce besoin des consommateurs et à la fois pour apporter ce chiffre d'affaires additionnel aux restaurateurs qui, eux, sont ouverts.
Si vous l'accélérez, c'est que le confinement et aujourd'hui les couvre-feux, finalement, ont fait changer plus vite que vous ne le pensiez les habitudes de consommation des gens qui utilisent ces plateformes ou qui jusque-là ne les utilisaient pas encore.
Alors, je ne sais pas si on peut dire plus vite, mais c'est vrai que c'est un marché qui est en plein développement et que d'année en année, il a des taux de croissance très forts et de très nombreux nouveaux consommateurs qui rejoignent ces services-là et de très nombreuses nouvelles habitudes de consommation qui existent. Et pour tout vous dire, avant de lancer ce service, encore faut-il avoir à la fois des restaurateurs qui sont ouverts et qui sont partants pour rejoindre ce type de programme, et également des livreurs partenaires qui souhaitent, on va dire, livrer à ces heures-ci. Donc, quelque part, c'est la maturité du marché qui, aujourd'hui, nous permet de venir avec ces offres-là et peut-être, effectivement, de continuer à alimenter la demande et donc, finalement, le chiffre d'affaires de nos restaurateurs.
Vous le disiez, hein, deux tiers aujourd'hui des Français sont sous couvre-feu, donc on ne peut pas aller au restaurant après 21h. Il y a des rumeurs qui circulent en ce moment de potentiels reconfinements locaux ou en tout cas d'un couvre-feu qui pourrait démarrer encore un petit peu plus tôt. Est-ce que du coup, là, en ce moment, du côté de Deliveroo, hein, je rappelle que vous êtes la directrice générale de Deliveroo en France, vous avez des appels des restaurateurs en disant « il faut qu'on se réorganise, il faut qu'on se prépare ».
La bonne nouvelle, si tant est qu'on puisse parler de bonne nouvelle dans un contexte assez compliqué, c'est que nous avons eu tous, quand je dis nous, c'est nous l'industrie, avec les restaurateurs, les livreurs partenaires et les confrères qui font des métiers similaires, on a fait face à énormément d'incertitudes en mars et que quelque part, l'expérience du confinement absolu qu'on a eu mi-mars nous a permis, on va dire, de nous préparer ou en tout cas de renforcer nos armes. Aujourd'hui, s'il devait y avoir un confinement, nous serions prêts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a mis en place énormément de mesures et de protocoles un petit peu différents. La livraison sans contact, la prise de la réception des commandes sans contact également dans les restaurants. Donc énormément de choses, on va dire, sont déjà structurellement ancrées dans notre façon de travailler, qui fait que nous serions prêts. Ceci étant dit, je tiens à chaque fois à modérer l'a priori que confinement égale explosion des chiffres d'affaires. Il faut savoir que le vrai enjeu lors d'un confinement, c'est comment on s'assure que les restaurateurs aient suffisamment d'activité pour continuer à opérer et continuer à rester ouverts, a fortiori, s'ils ne vivent que de la livraison.
Oui, c'est ça, effectivement, le plus compliqué. Vous avez fait une étude, hein, justement, pour tirer les leçons du confinement. Vous dites que vous avez permis de sauvegarder 38 000 emplois. Pourtant, il y avait le chômage partiel qui était en place et qui est toujours en place dans le monde de la restauration. En quoi Deliveroo a permis de sauvegarder, comme vous dites, des emplois ?
Alors, excellente question. Je vais la formuler. Je vais regarder, on va dire, en regardant les trois pôles d'activité. Le premier, c'est au niveau des restaurateurs. Il faut savoir qu'un restaurateur qui ne pouvait pas faire appel à la livraison, enfin, s'il avait décidé de ne pas faire appel à la livraison, il n'avait plus aucune activité. Et donc, en effet, il était contraint soit de partir en chômage partiel, en chômage total, ou parfois même, malheureusement, contraint à fermer tout simplement. Typiquement, la livraison leur a permis de rapporter un chiffre d'affaires qui leur a donné une bulle d'oxygène, leur permettant de continuer à rester ouvert. Et la preuve, nous avons eu pendant le confinement 3000 restaurants qui ont rejoint notre plateforme, qui ont voulu nous faire confiance et qui ont, on va dire, développé ces services de livraison avec nous. Et là d'ailleurs, depuis le démarrage du couvre-feu, nous avons eu 1000 restaurants qui ont déjà suscité, on va dire, qui nous ont témoigné de l'intérêt de venir nous rejoindre.
Oui, donc quand tout à l'heure je vous disais, est-ce que vous, les restaurateurs vous appellent ? Ce qui est certain, c'est que des restaurateurs en ce moment sont en train de se mettre en ordre de marche pour faire face à toute éventualité.
Tout à fait. Alors, le deuxième axe dont j'aimerais vous parler, c'est effectivement au niveau des livreurs partenaires, que nous avons équipés, on va dire, de protection, on va dire, que ce soit masque et gel hydroalcoolique, et eux aujourd'hui sont aujourd'hui rodés à la livraison sans contact, et donc sont prêts à soutenir une éventuelle demande additionnelle s'il devait y avoir couvre-feu plus tôt ou confinement. D'ailleurs, pour ces livreurs partenaires que nous ne remercierons jamais assez, nous avons mis en place des mesures et des actions typiquement. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec le groupe Casino et avec l'enseigne Monop, où le livreur partenaire peut venir à tout moment de la journée récupérer un ravitaillement de masques dans ses points de vente.
Et bien, tout ça pour être prêt, bien évidemment, pour les jours à venir. Un grand merci à Melvina Sarfati El Grabli. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Deliveroo en France. Merci d'avoir été en ligne ce soir avec nous sur Europe 1. Nous, on se retrouve mercredi 22h20, puisque demain, à nouveau, grande soirée de football sur Europe 1.
Et oui, merci beaucoup Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.
C'était l'invité écho avec Chronopost. Chaque jour, Chronopost accompagne les PME françaises. Chronopost, l'expert de vos livraisons à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc à 22h29 ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Comment reconfiner sans tuer l'économie, titre l'Opinion. Avec pour illustration un dessin qui résume bien la situation. On y voit Emmanuel Macron à la barre d'un sous-marin avec à plat ventre sur la coque une personne complètement sonnée représentant l'économie. Accrochez-vous, on doit faire une deuxième plongée, lance le chef de l'État. Alors que faire ? À cette question, les épidémiologistes n'apportent pas tous la même réponse. Certains plaident pour un élargissement du couvre-feu, d'autres pour des reconfinements localisés, voire un reconfinement national. La décision, écrit l'Opinion, sera prise par l'exécutif en milieu de semaine et dépendra du moins officiellement d'un indicateur, le taux d'incidence de la maladie dans les 8 métropoles et l'Île-de-France où a été décrété le couvre-feu mi-octobre. Avec une limite toutefois, on ne pourra pas repartir sur un scénario où l'on met tout le monde à l'arrêt comme au printemps, estime-t-on dans l'entourage du président. Ce thème du reconfinement est à la une de nombreux autres quotidiens. Pourra-t-on échapper à un reconfinement, s'interroge le Maine Libre. Macron prépare un nouveau tour de vis sanitaire, peut-on lire à la une des Échos. Titre quasi identique pour le Figaro, la France se prépare à un nouveau tour de vis. Le Figaro qui confirme les informations d'Europe 1 que l'on vous donnait dans le journal. Le couvre-feu pourrait démarrer plus tôt et la population être confinée le week-end, voire complètement plusieurs semaines durant dans les zones les plus touchées. Voilà les pistes étudiées par l'exécutif. Sur un tout autre sujet maintenant, La Croix revient sur l'escalade entre Paris et Ankara. Pourquoi Erdogan cible la France, titre le quotidien. La réponse, on la trouve dans l'édito de Jérôme Chapuis. En croisant le fer avec les dirigeants occidentaux, Erdogan entend remobiliser ses partisans en flattant leurs fibres nationalistes et religieuses. Et ce n'est pas un hasard s'il le fait aujourd'hui. La situation de l'économie turque est préoccupante. La dette du pays vient d'être dégradée par une agence de notation. Les réserves de change sont au plus bas depuis le milieu des années 90. À cela s'ajoutent des revers militaires récents en Syrie. Bref, les outrances du président turc doivent être prises pour ce qu'elles sont, les foucades d'un populiste fragilisé. C'est-à-dire donc demain dans La Croix. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Les auditeurs peuvent à tout moment intervenir en vous appelant au 3921.
Exactement, puisque c'est la libre antenne qui démarre juste maintenant. On vous retrouve tout à l'heure pour l'info à partir de 23h, Julien.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.